Ok. Alors, j'explique un peu qu'est-ce qu'on va faire, parce que la semaine dernière, on avait fait un peu une séance d'introduction un peu générale, mais on va commencer là, ce soir, un peu dans le cœur du sujet. Ça, c'est un. Au niveau du calendrier, la semaine prochaine, il n'y a pas cours ici. Le centre a une activité globale, donc il n'y a pas d'études la semaine prochaine ici. Donc, la suite, c'est dans 2 semaines. Voilà. OK. À part ça, il y a des personnes. Si des personnes viennent pour la première fois, si vous voulez laisser votre adresse email, voilà. Pour recevoir les spams de la yeshiva des étudiants. Voilà. Alors, ce étant, c'est quoi ce qu'on va commencer là aujourd'hui? Le sujet est le suivant. Depuis plusieurs années, il y a plusieurs années, on avait fait une étude suivie d'études de texte à la yeshiva des étudiants rue Cadet. J'ai votre adresse? Mademoiselle, peut-être. J'ai la vôtre. Hein? J'ai aussi la vôtre. Si vous voulez. Hein. Que veux-je dire? Donc on a fait une étude dans le texte et plusieurs personnes m'ont harcelé en me disant on veut reprendre. Et voilà. Donc on avait étudié des très belles choses, le livre de Jonas, le rouleau d'Esther, on avait étudié le rouleau de Ruth, enfin beaucoup de choses. Et donc, je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion donc de reprendre du texte. Et un des textes que, personnellement, qui m'apporte le plus, c'est le livre de Shmuel, le livre de Samuel. Le livre de Samuel, c'est vraiment, j'appellerais ça, le livre des passions humaines. On voit, il y a la Torah, il y a le Chumash, les 5 livres de Moshe, de Moïse. Mais on pourrait dire, ça c'est le programme, la structure des choses. Le livre de Shmuel, c'est comment la Torah se concrétise dans la vie. En particulier, le premier sujet, alors on ne va pas commencer au premier chapitre. Parce que les premiers chapitres sont assez, je dirais, ardus et un peu secs. On va commencer au 9e chapitre. On va commencer au 9e chapitre. Voilà. Donc le sujet principal du livre de Shmuel, c'est l'avènement de la royauté dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. 40 ans, ils étaient dans le désert. Ils étaient 40 ans dans le désert. Ensuite, avec Josué, ils sont rentrés dans la terre de Canaan. Il y a eu la conquête. 7 ans de conquête. Ensuite, 7 ans où ils ont partagé la terre de Canaan en tribus, en 12 tribus. Et ensuite, il y a eu, pendant 400 ans, grosso modo, ce qu'on appelle la période des juges. C'est-à-dire qu'il y avait les 12 tribus, mais il n'y avait pas d'instance centrale, d'un gouvernement central du peuple juif. Chaque tribu avait une relative autonomie, mais pas d'instance centrale. L'instance centrale, c'était le tabernacle qui était à Gilgal d'abord, ensuite à Shiloh, et donc il y avait le tabernacle. Voilà. Il y avait le tabernacle avec les tables de la loi, les sacrifices étaient faits là-bas.
Ça se trouve au Gilgal aujourd'hui ?
Gilgal, c'est à côté du Jourdain, et Shiloh, ouais, se trouve, ce que j'ai dit la semaine dernière, vous allez en Samarie. Il y a un endroit qui s'appelle Shiloh, et il y a des traces qu'il y avait le tabernacle. C'est très émouvant d'ailleurs. C'est très très, c'est très très émouvant parce que c'est des régions très arides et tout d'un coup on voit un endroit où était le tabernacle. Ok. Et il y avait des personnalités qui, on pourrait dire des personnalités charismatiques qui n'avaient pas de pouvoir, mais qui parfois, on pourrait dire, apportaient quelque chose au peuple juif. Par exemple, il y a Samson, Shimshon. Ouais, c'était les Philistins embêtaient gravement donc le peuple d'Israël sur sa terre. Et il y avait Shimshon, il y a eu Iftar, il y a eu quelques personnalités comme ça. Et il y a eu Élie le Cohen, le grand prêtre qui s'appelait Élie à Shiloh. Et ensuite, après Élie, il y a eu Shmuel. Voilà. Shmuel était Lévi, d'ailleurs, était de la tribu des Lévites. Il était Lévi. Et Shmuel était un prophète. Donc qu'est-ce que ça veut dire un prophète? Ça c'est fondamental. On va voir ça. Un prophète, eh ben, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. On risque de me répéter pour ceux qui étaient à d'autres études. C'est aujourd'hui, on a des technologies relativement limitées. Oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas besoin de ça. C'est Dieu parlait à l'homme. C'est spécial quand même. Non, ça veut dire... c'est spécial. Ça veut dire on ne peut pas concevoir. C'est le Créateur par la loi. Alors, c'était pas, parlait pas à tout le monde. Mais parler à, on va voir, le chapitre que nous allons voir, c'est presque en direct comment ça se passe. Hein. Et Shmuel était un très grand tzaddik, un très grand juste, tellement qu'on dit qu'il était égal à Moshe et Aaron réunis, à Moïse et Aaron réunis. Moïse était une personne qui avait en lui-même les qualités de Moïse et les qualités de Aaron. Personnalité absolument centrale. Mais, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, qu'il n'y a pas eu de continuité. Ses fils ne suivaient pas ses chemins. Il n'avait pas de fonction officielle, Shmuel. Il allait de village en village pour juger les gens. C'est-à-dire que quand il y a des conflits entre les gens, eh bien, nous aujourd'hui, il y a des conflits, on va au tribunal d'instance, tribunal de grande instance, que sais-je, etc. Eh bien, à l'époque du prophète Shmuel, ce n'était pas ça. Lui, il allait, il prenait son sac à dos ou sa valise et il allait de village en village. Des gens qui ont des conflits, il a un conflit, quelqu'un conteste la propriété sur tel champ, etc. Et bien, il venait voir Shmuel, et Shmuel analysait le problème et rendait une sentence. Voilà. Et après, il allait dans un autre village. Après, ses fils n'ont pas fait comme ça, ils se sont installés à Beersheba avec toute une bureaucratie. Si les gens veulent se faire juger, qu'ils aillent au tribunal. Et ça, les gens n'ont pas aimé ça. Et ils ont dit, notre peuple ne ressemble à rien. On est un peuple qui ressemble à rien. Pourquoi on ne ferait pas, comme les autres nations normales, avoir un roi qui unifierait un peu tout ça et organiserait un peu tout ça? Et Shmuel a reproché aux gens qui ont demandé ça, aux notables du peuple juif qui ont demandé ça, ça c'est ce qu'on avait vu succinctement la semaine dernière, parce qu'ils ont dit, pour être comme les autres peuples. Et la problématique, donc ça je résume ce qu'on a vu la semaine dernière, la problématique était que avoir une instance d'un pouvoir central dans le peuple juif, oui, c'est une dimension positive. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut demander pour être comme les autres peuples. Et ça, c'est une ambiguïté, parce que c'est ambigu. C'est une question, finalement, de fond, presque sur l'identité du peuple juif. L'identité du peuple juif. Nous sommes un peuple, mais est-ce qu'on est un peuple comme les autres ? Vaste question. Musique. Il y avait un auteur dans les années 60 qui avait écrit un livre sur Israël. Il avait appelé son livre « Fin du peuple juif ?» Est-ce que le fait qu'on ait un État comme un État, est-ce que finalement ne serait-ce pas la fin du peuple juif ? Je ne prends pas position. Fort de cette question, nous allons commencer. Musique. Voilà. On va commencer. Regardez, j'ai fait quelques photocopies. Comme je ne veux pas qu'il y en ait trop et que ça fasse du papier pour rien, j'en ai fait, je ne sais pas, 10. Alors vous copiez sur le voisin, sur la voisine. Mais il faut avoir un texte, parce que sinon ça va pas être bien. Joël, peut-être tu peux copier avec Lucien. Alors, l'intérêt, donc c'est, on va faire verset par verset, et en particulier avec le commentaire de Rashi. Alors, n'ayez pas peur, hein, si vous ne comprenez pas l'hébreu, on se débrouille. Bien. Alors, le chapitre Chet, verset Yud-Tet. Shmuel, donc, est interpellé par les anciens du peuple d'Israël. Quand on parle des anciens, c'est-à-dire, c'est comme le conseil des anciens, si vous voulez, c'est les sages, les notables, qui viennent voir Shmuel en lui demandant un roi. Et Shmuel, les grondes, enfin
les tenses.
Ouais. Les invectives, leur remontent les bretelles, trouvant d'autres synonymes, il les explose, quoi. Il les explose. Il leur dit, mais ça va être une catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un dictateur ? Vous voulez quelqu'un qui va vous spolier, qui va vous rendre esclave pour ses folies, pour construire des palais ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ça sert à quoi ? Alors, le verset Yud-Tet. Vaïmanu ha'am lishmoa bekol Shmuel. Vayomrulo ki meler ye alen. Le peuple refusa d'écouter la voix de Shmuel et ils dirent non, car un roi sera sur nous. Et regardez le verset terrible. Ve'aynu gamanachnu kechol agoyim. Nous serons comme les autres peuples. Regardez cette phrase terrible. Nous serons comme les autres. Nous voulons être comme les autres peuples. Ça a été écrit. Au niveau des dates, ça fait combien de temps, ça, le prophète Samuel ? Tic-tac, tic-tac. Comment ? Là, on est 400 ans après la sortie d'Égypte. Alors, regardez, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Chaque temple a duré 480 ans. Oui, 480 ans. Donc la destruction du second temple, c'était en l'an 70, un truc comme ça ? 70. Donc la construction du second temple, c'est moins 400. Ils étaient 70 ans à Babylone, 470 plus 400 ans. Ouais. Donc ça fait moins 870. Plus, et là encore, parce que toute la vie, le règne du roi David, c'était 40 ans. Le règne du roi David, c'était 40 ans. Enfin, c'est moins 900 de l'ère commune. C'est pas... C'est pas hier matin. Hein. Et on va voir des versets qu'au niveau de la culture, c'est l'ère du bronze. Nous, à l'école, on a appris l'ère le néolithique supérieur et tout ça. Moi, j'ai coutume de dire Abraham, c'est néolithique supérieur. Quand on dit ça, ça casse. Hein? Abraham, néolithique. On ne sent pas que c'est néolithique. Il n'avait pas conscience, Abraham, d'être au néolithique. Mais quand on voit la civilisation, comment c'était, ou le balbutiement de la civilisation, c'est néolithique. Là, c'est l'ère du bronze. On va voir ça dans la suite. On verra c'est les objets, comment ils sont décrits. Par contre, l'hébreu, nos maîtres disent dans le traité Baba Batra, le traité de Talmud, que c'est Shmuel lui-même qui a rédigé ce livre. Donc c'est l'hébreu de l'époque, mais qui est sublime. Pour apprendre l'hébreu, c'est l'hébreu le plus classique qui soit. Alors, le français classique, en français, on dit c'est Racine, Corneille, La Fontaine, machin. Oui, ça c'est le classicisme. Mais le classicisme, pour nous, l'hébreu classique, c'est le livre de Shmuel. C'est pour ça que je pars toujours du texte hébreu. Et le lire, c'est beau, c'est magnifique comme c'est dit. Je reprends ce verset extraordinaire, donc qui a été écrit il y a presque 3000 ans. Regardez ce verset. Vayomru, ils ont refusé. Verset Kaf. Ve'aynu gamanachnu kechol agoyim. Nous serons, nous aussi, comme les autres nations. Verset puissant. On veut être comme les autres nations. Pourquoi on est un peuple différent? Pourquoi on fonctionne différemment? On veut être comme les autres peuples. Ushfatanu malkenu. Notre roi nous jugera. Veyatsa le fanenu. Il sortira devant nous. Venilcham et milchamotenu. Il combattra nos guerres. Va Ishma Shmuel et Kol Divrei Ha'am, va Idabrem Be'ozne Hashem. Je traduis. Shmuel a écouté toutes les paroles du peuple et les a rapportées aux oreilles de l'Éternel. Alors, on va essayer de réfléchir là-dessus. C'est pas bizarre, non?
Il n'a pas besoin de les rapporter.
Ouais, on imagine que Dieu, il met des micros quand même pour savoir ce qui se passe dans les salles de réunion. Quand même, c'est bizarre. Alors, on reprend ce verset. Si vous voulez, là maintenant, ça, on va commencer. On lit les versets, mais on va essayer ensemble de rentrer. Moi, je pose des questions. Si vous avez, vos questions, c'est comme ça qu'on va... On va travailler. Je reprends. Ishma Shmuel et kol divrei ha'am. Ça aussi, c'est très beau. Il a écouté toutes les paroles du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il a écouté toutes les paroles du peuple. Comment? Oui, c'est-à-dire que il se laisse pas, parce que c'est quand même un affront. c'est un affront. Ils disent à Shmuel, on en a marre de toi. Hein, en un mot, tu n'as pas réussi à faire que ça soit bien. Donc c'est un affront. Mais là, il ne se braque pas. Bon, il les a tensés, il les a explosés, mais il écoute toutes les paroles du peuple. Il ne regarde pas simplement l'offense qui lui a été faite ou qui a été faite à Dieu. Il écoute tout ce qu'ils disent, parce que ce n'est pas monolithique aussi ce qu'ils disent. Il faut aussi comprendre pourquoi ils le disent, qu'est-ce qu'ils demandent. Et il rapporte ce qu'ils ont demandé aux oreilles de l'Éternel. Ça, c'est bizarre quand même, parce que on peut imaginer Dieu, il entend, il en peut dire comme Don Camillo. Oui. Revoyons nos classiques. Don Camillo, oui, avec l'Éternel Fernandel dans le rôle titre, qui dit: oh Éternel, regarde comme il parle, quand même. Ouais, il fait pas comme Don Camillo. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il rapporte ses paroles à Dieu? C'est bizarre ça. Hein? Alors. Rashi ne dit rien. Par contre, je ne sais pas, dans la photocopie que je vous ai rapportée, oui, il n'y a pas Radak. Donc, dans les prophètes, les commentaires classiques, il y a Rashi. En l'occurrence, Rashi ne parle pas sur ce verset, mais il y a le commentaire, un grand commentaire de Rabbi David Kimri. Rabbi David Kimri était à Narbonne au fin 12e siècle. Était au 12e siècle à Narbonne. Voilà. Narbonne, aujourd'hui, bon, Narbonne, c'est une petite ville du Midi. Oui, il a sûrement une bonne équipe de rugby. Mais bon, c'est pas. Il y a une petite communauté juive à Narbonne. Je connais des gens qui sont à Narbonne. Bon, c'est une petite ville, toute petite ville de province. À l'époque, c'est-à-dire au haut Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, Narbonne était d'abord, il y avait une grosse communauté juive, beaucoup de sages de la tradition juive à Narbonne. Et c'était une ville, d'un point de vue commercial, très importante. Très, très importante. Dont la richesse principale était le commerce des esclaves. Aujourd'hui, les grandes richesses, c'est le pétrole. À l'époque, c'était il y avait une autre énergie. Ouais. Et donc, c'était la richesse du port de Narbonne, si je ne m'abuse, c'était le commerce des esclaves. Et il y avait des grands maîtres de notre tradition. Grands maîtres de notre tradition. Et Rabbi David Kimri. Alors, je vous lis ce qu'il dit. On va essayer de voir. Vaidabrem Be'ozne Hashem. Il a parlé les paroles du peuple aux oreilles de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rabbi David Kimri rapporte la traduction de Yonatan Ben Uziel. Est-ce que vous avez Yonatan Ben Uziel dans cette édition? Non. Alors, dans une émission comme celle-là, des prophètes, vous avez le texte des prophètes, Rashi, Rabbi David Kimri, et là, la traduction en araméen de Yonatan Ben Uziel. Yonatan Ben Uziel est contemporain. Yonatan Ben Uziel est un élève de Hillel, l'ancien. Donc c'est grosso modo zéro de l'ère commune. Yonatan Ben Uziel, c'est zéro de l'ère commune. Alors, les traductions en araméen que nous avons sur la Torah, c'est Onkelos, Ben Kalonimos, Onkelos. Mais sur les prophètes, c'est pas Onkelos, c'est Yonatan Ben Uziel. Mais comme il traduit, c'est pas seulement il traduit, il explique. Alors, Radak, Rabbi David Kimri dit, pour comprendre cette expression, il faut prendre la traduction de Yonatan qui dit « Vesadrenon kadam Hashem ». C'est une traduction en araméen, parce que la langue, à l'époque, donc dans l'Antiquité, la langue de la communauté juive, c'était l'araméen. Donc il traduit en araméen. Mais bon, pour quelqu'un qui a l'habitude d'étudier le Talmud, c'est bon, le Talmud est en araméen, c'est bon, ça roule. Ouais. Donc il dit « Vesadrenon kadam Hashem ». Il a organisé ses paroles devant Dieu. Sadrenom, c'est comme Seder. Il a dressé les paroles du peuple devant Dieu. Ce qui signifie Klomar. Betfilato, c'est-à-dire, il a prié à Dieu. C'est-à-dire, il a repris les paroles du peuple. En vérité, ce n'est pas pour Dieu. C'est, il a rapporté les paroles du peuple pour bien s'intégrer des paroles du peuple et demander à Dieu que Dieu réponde de manière adéquate, que Dieu réponde de manière adéquate à la requête du peuple. C'est-à-dire que, ici, nous dit Yonatan ben Uziel un grand principe dans la prière. Je reprends. Le verset dit que Shmuel a rapporté les dires du peuple à Dieu. Rapporter les dires du peuple à Dieu, on ne voit pas qu'est-ce que ça veut dire. Yonatan explique, traduit, « Sadrenon kadam Hashem », c'est-à-dire il a repris les paroles du peuple, il les a organisées. Qu'est-ce que ça veut dire « il a organisé » ? Explique Rabbi David Kimri, il a organisé dans sa prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique Rabbi David Kimri. Sidran betfilato sheitpalel la el shianeu bedavar amlucha besider d'Ibrahim le fanav. C'est-à-dire qu'il a rapporté tout ce que disait le peuple devant Dieu pour que Dieu réponde à cette quête du peuple de manière adéquate. Ici, on pourrait dire qu'on a un principe, vous voyez ce petit détail-là, c'est un petit détail, mais c'est ça qui est fondamental dans le fait de travailler le texte. Ici, ces mots-là vont nous expliquer un grand principe, qu'est-ce que c'est la prière ? Il y a quelque chose dans notre tradition qui est faire la prière. Vous avez entendu parler hein? Un truc, ça veut faire la prière. Maintenant, on peut se poser la question, à quoi ça sert de demander à Dieu? À quoi ça sert? Dieu, il sait qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de se fatiguer, de demander. Et puis même, bon, on ne connaît pas tellement Dieu, entre nous soit dit, hein? Je ne connais pas tellement. Je ne sais pas, tout à l'heure, j'étais à la station Châtelet-Léal. Enfin, j'ai vu des gens, mais je n'ai pas vu Dieu. Bon, il y en a qui disent qu'ils l'ont vu. Enfin, moi, je n'ai pas vu. Je ne sais pas. Alors, ce n'est pas le bon texte. Vous pouvez prendre, mais ce n'est pas le bon texte.
Il est où le bon texte?
Je ne sais pas.
Ah, d'accord.
Là, il y a un texte, là. Ah, vous êtes trois dessus. Ah bon, d'accord. Okay. Ça va? Vous avez plus ou moins? Ok. Alors. À quoi ça sert de demander à Dieu? Je pense que de cette explication de Radak, de Rabbi David Kimri, on peut avoir une explication. Il a rapporté les paroles du peuple à Dieu. En vérité, c'est pour mettre au clair sa propre demande à lui. Quand tu demandes à Dieu, tu n'as pas 100 balles. Ouais. Ça veut dire, la manière quand tu vas formuler la chose, tu vas éclaircir ta propre requête à toi. On a une requête. Je sais pas, par exemple, il y a quelqu'un, un proche qui est malade. Est-ce que ça vous fait mal au cœur? Ça vous fait mal au cœur quand un proche est malade? Ouais, plus ou moins. Bon, ça veut dire... C'est... En vérité, c'est en le demandant qu'on se rend, on réalise la chose. Parce que c'est en demandant qu'on réalise qu'est-ce qu'on a besoin. Il y a quelqu'un qui est malade. Ok, ça, ça fait mal au cœur. Mais est-ce que c'est vraiment, ça nous touche vraiment? Est-ce que c'est vraiment vital pour nous que ces personnes guérissent? C'est en parlant, en formulant, que petit à petit, tu vas réaliser la chose. Donc, ici, Radak nous explique que pour Shmuel, répéter les choses, c'était pour faire une tfila, pour que lui-même, Shmuel, s'investisse dans la requête du peuple, et selon l'investissement que lui-même va s'investir dans cette requête du peuple, ça aura comme conséquence sa relation à Dieu, que Dieu pourra répondre à une demande. Dieu répond à ce qui nous importe. Par exemple, il y a des gens qui disent « Oui, je vais prier pour sauver la zone euro. » Ouais, la zone euro est très malade. Et nous allons prier pour la zone euro. Bon. Alors, on va prier, ou alors pour la paix dans le monde. On va prier. Mais est-ce que vraiment ça nous touche? Est-ce que vraiment c'est quelque chose? C'est... Tu vas voir, en le disant, est-ce que vraiment ça t'intéresse? Est-ce que c'est important pour toi? C'est en le disant que, tout, que la demande va être fonction de la manière de dire la chose. Et c'est ça l'importance de formuler les choses. Donc vous voyez ici ce détail, c'est un petit détail dans le verset, mais qui en réalité est toute une... Ça peut, si on creuse ça, on peut découvrir toute une manière d'aborder les choses. Vous voyez où c'est le verset? Non? Alors... On va, regardez, on commence le chapitre tête, le chapitre 9. Et maintenant, on va voir comment Dieu va répondre.
Il reste une phrase encore.
Oui, j'ai sauté une phrase. Ok, ok. Oui,
yeah.
Oui, une seconde.
Ça veut dire que la requête qu'a exprimée le peuple à ce moment-là à Shmuel, c'est pas considéré comme une requête directement à Hachem. Ils ont besoin que le prophète s'exprime à Hachem pour qu'Hachem considère cette requête.
Alors, nous avons vu la semaine dernière que ça fait partie. Il y a des lois relatives à la nomination du roi. Un roi d'Israël, il faut deux conditions pour qu'il ait le statut de roi d'Israël. Première condition, il faut qu'il ait été nommé par le prophète selon la parole de Dieu. Il n'y a pas de statut de roi s'il n'est pas nommé par le prophète sur la parole de Dieu. Et deuxième condition, que nous verrons dans la suite dans les versets, une fois qu'il a été nommé, il n'a pas le statut de roi tant qu'il n'est pas accepté par l'ensemble du peuple juif. Avoir été nommé par le prophète et ne pas avoir été accepté par l'ensemble du peuple juif, ou bien avoir été accepté par l'ensemble du peuple juif et ne pas avoir été nommé par le prophète, ne donne pas le statut juridique de roi. Parce que être roi dans le peuple juif, c'est un statut juridique. Il a des obligations, il doit se conduire d'une certaine manière, il a des commandements qui lui sont spécifiques. Le peuple a aussi des responsabilités à l'égard du roi. Par exemple, un crime de lèse-majesté. Vous savez ce que ça veut dire en français, un crime de lèse-majesté?
C'est manquer de respect au roi.
Comment?
Manquer de respect au roi.
Voilà. Alors, un crime de lèse-majesté, dans la Torah, est condamnable à mort. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ouais, c'est pas n'importe qui comment dire, qui sera condamnable à mort, parce que il faut qu'il y ait un statut juridique de roi. Bien. Alors maintenant, il faut qu'il soit nommé par le prophète, mais sur la parole de Dieu. Et d'autre part, à la limite, Shmuel aurait pu usurper, dire voilà, je vais vous nommer un roi. Non, il en réfère à Dieu, c'est Dieu qui va le nommer. Mais justement, il aurait pu faire les choses comme ça. Peut-être que le peuple attendait tout de suite un roi. Lui, Shmuel dit non, moi je nomme pas le roi. C'est Dieu, mais c'est pas seulement c'est Dieu. Si vous voulez, ici, c'est quelque chose de fondamental. Dans notre tradition, ça c'est quelque chose que nous voyons ensemble quand on étudie presque à toutes les études, que il n'y a pas de déterminisme. C'est quelque chose de fondamental dans notre tradition. Il n'y a pas de déterminisme. Ici, on pourrait dire, Dieu va nommer un roi. Non, Dieu ne va pas nommer un roi. Il va nommer le roi selon la manière dont l'homme va le demander. Et c'est ça, cette nuance du texte extraordinaire, que c'est le prophète va parler devant Dieu. C'est la manière dont lui il parle qui va éveiller une requête, et Dieu va répondre selon la requête. La requête aurait été faite différemment. La réponse de Dieu aurait été différente. Et c'est maintenant on voit la profondeur des mots. Il a écouté toutes les paroles du peuple. Et il a rapporté les paroles du peuple, pas son problème à lui, les paroles du peuple. Il a reformulé les paroles du peuple. Regardons le dernier verset du chapitre 8. Vayomer Hashem El Shmuel, Shema Bekolam, Vimlarta Laem Meler. Vayomer Shmuel El Anche Israël, Le Hu Ish le Hiro. L'Éternel dit à Shmuel, écoute leur voix, tu feras régner sur eux un roi. Shmuel dit aux gens d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Regardez, c'est spécial quand même. C'est-à-dire, il y a les gens, ils sont là, ils demandent. Il dit, laissez-moi quelques minutes. Il va dans une autre pièce, il prie. Dieu lui dit, c'est bon. Ok, bon, Dieu vient me dire, c'est bon. Non, mais c'est quand même... je ne sais pas, vous voulez parler au PDG de BNP Paribas, ça va prendre du temps, quoi. Là, il parle à Dieu, Dieu lui répond... c'est important, ça, c'est des textes qui sont très importants de notre tradition. On voit comment se passe la prophétie. Quand Maïmonide dit que lorsqu'il y aura le Mashiach, il y aura de nouveau, il y aura le Messie, une partie importante du peuple d'Israël, hommes et femmes, seront prophètes. C'est-à-dire, ça redevient, dans notre tradition... Nous avons la confiance que cette dimension reviendra dans le peuple d'Israël. Alors on commence. Maintenant on va voir qui est-ce que Dieu va désigner comme roi. Oui.
Juste une chose que j'aimerais comprendre, c'est qu'à la base, Shmuel il n'était pas content, comme on a dit tout à l'heure, il expulse le peuple.
Furax.
Mais dans ce cas, pourquoi il accepte quand même d'aller faire la requête auprès de Dieu?
Oui. Ça c'est très très important. On voit cette démarche. Oui, Joël, tu... On voit cette démarche que on voit souvent dans la Torah, et Rivka vous l'avez rapporté la semaine dernière. J'étais pas d'accord, mais je voulais rapporter la semaine dernière que parfois il y a des choses qui sont pas bien mais dire non n'a pas de sens. C'est une requête générale du peuple juif. Tu leur dis non. Tu as deux possibilités. Ouais. Soit tu ouvres des camps de concentration avec des miradors et des mitrailleuses, ouais, pour aller contre la volonté du peuple. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font actuellement en Syrie, par exemple. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que disent les journaux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais ça a l'air d'être un peu à coups de mitrailleuse là-bas. Soit tu prends des mitrailleuses, tu vas contre la volonté du peuple, ça se fait, c'est un genre, c'est une tendance, ouais. Soit tu dis ok, j'ai entendu, on va voir qu'est-ce qu'on va faire, on va essayer de trouver quelque chose. Donc c'est la deuxième option ici.
Voilà. Oui, puis ça je trouve.
Et on voit souvent ça, par exemple, quand... je vous donne un exemple que je rapporte des fois dans des cours, peut-être il y en a qui ont déjà entendu cet exemple. Il y avait en Israël j'étais dans, quand j'avais 19 ans, 20, non, quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais dans une yeshiva à Bnei Brak qui s'appelait Oel Yaakov. Le fondateur de cette yeshiva à Bnei Brak en Israël, le fondateur s'appelait Rabbi Yaakov Halperin, qui était un grand ami du grand maître qui s'appelait le Chazonich. Un fils de ce Rabbi Yaakov Halperin, fondateur de cette yeshiva, Oel Yaakov, quand il avait 18 ans, a voulu faire du catch de manière professionnelle.
Du catch ?
Du catch. Et il était fou du catch. Et il a demandé, donc grand ami de son père, le Chazonich, qu'est-ce qu'il en pensait. Le Chazonich lui a dit, ok, tu sens que c'est ton truc le catch, fais du catch, à une condition, quoi qu'il arrive, respecte Shabbat. Si tu t'engages à ça, quoi qu'il arrive, tu respectes Shabbat comme il faut, fais du catch. Il est devenu champion du monde de catch. Connu dans les années, début des années 70, sous le nom de l'ange blanc. Bon, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés à cette époque, mais connu, il paraît que c'était la grande star du catch. Ensuite, les champions internationaux, vers l'âge de 34 ans, ça s'arrête. Et après, quand il a terminé sa carrière, il s'est marié, il est retourné étudier à l'Yeshiva de son père. Et moi, quand j'étais à l'Yeshiva, il y avait l'ancien champion du monde qui étudiait à l'Yeshiva. Alors, genre, c'était l'armoire à blanc. C'était un cas. Il étudiait jour et nuit. Et moi, je l'ai vu là-bas. Toutes les nuits, il étudiait. Toutes les nuits. C'est-à-dire, quand on est quelqu'un qui étudie toute la nuit, c'est-à-dire de... je sais pas... l'Yeshiva, on loge dans l'Yeshiva. Donc des fois, excusez-moi l'expression, il y a des... dans la nuit, on se réveille pour aller aux toilettes. Je voyais à 3h, 4h, 5h du matin, nuit après nuit, étudier. Un cas. Et après, il est devenu extrêmement célèbre parce qu'il a créé la grande, chaîne d'optique en Israël, Halperin. Voilà. Il est décédé il y a 3-4 mois. Voilà. Décédé il y a 3-4 mois. Ça m'a fait d'ailleurs énormément de... un choc, parce que bon, je l'ai connu. Il a écrit après plein de livres sur le Talmud. Plein. Mais c'est un cas. Si le Chazonich ne lui a pas dit oh, du catch, ah, oh, horrible, ah, comment un enfant d'Israël va faire du catch et machin, et bidule, quelle horreur, mon pacemaker. Non, il a compris que c'était son truc. Tu vas pas lui dire non, je veux dire, c'est... Maintenant, est-ce que un juif pieux doit faire du catch? Je pense, après mûre réflexion, je pense que c'est pas obligé. Non, c'est pas obligé, franchement. C'est pas obligé. Par contre, si tu vois que quelqu'un c'est son truc et qu'il est martel en tête, il veut faire du café. Alors, tu vois comment. Et tu vas faire du cash, on va voir comment. Et c'est ça ce qui va se passer. Maintenant, il demande un roi, et on va voir comment Dieu va répondre à la requête du peuple. Musique. Ah, il faut la musique, il faut des jingles, là, parce que c'est trop... Non, mais c'est ça, le livre de Shmuel, c'est une histoire vraie qui s'est passée. En même temps, c'est un texte prophétique, et en même temps, c'est un livre d'aventure. Alors, on va voir. Verset Aleph. Donc, on vient de voir que le peuple attend de manière ardente quelqu'un qui va unifier le peuple juif et qui va prendre en main le peuple juif, structurer le peuple juif. Verset Aleph. Vayoi ish mi ben yamin ou shemokish ben aviel ben tzchor ben bechorat ben afiar ben ish yemini gibor chayim. Il y avait un homme de Binyamin. Binyamin, vous voyez, c'est pas écrit Binyamin en un mot, c'est écrit fils de droite. Binyamin. Il y avait un homme, son nom c'est Kish, fils de Aviel, fils de Tzchor, fils de Bechorat, fils de Afiar, homme de Yemini, homme de la tribu de Binyamin. Gibor Chayil, puissant de force, un homme puissant. Verset Bet. Velo Ayaben ou Shemo Shaul Barur Vatov ve En Ish Mibne Israël Tov Mimenu Mishirmo Vamala Gavoa Mikola Am. Cet homme qui s'appelait Kish avait un fils ou Shemo Shaul. Son nom c'est Shaul. En français, Saül. Bien. Alors, nous savons que dans les textes de la Torah, les prophètes, quand on dit son nom c'est un tel, c'est que c'est un tzaddik, quelqu'un de vertueux. Quand on dit un tel son nom, c'est que c'est un rachat, un impie.
C'est quoi la règle là? Quand on dit d'abord, vous pouvez redire?
Oui, je redis. Je le redis. Dans les textes prophétiques, quand on dit son nom, c'est un tel, c'est que c'est quelqu'un, quand on parle comme ça, c'est que c'est un tzaddik ou une tzaddikette, quelqu'un de vertueux. Quand on dit un tel son nom, c'est que c'est un impie, c'est un rachat. Alors pourquoi c'est comme ça? Par exemple, on verra plus tard, quand les Philistins attaquent le peuple juif, les Philistins attaquent, ils ont un héros. Le verset dit Goliath Shemo. Goliath, c'est son nom. Goliath, c'est son nom. Ça, c'est un impie. Montrez-lui. Son nom, c'est un tel, c'est que c'est quelqu'un de vertueux. Par exemple, on va dire dans la Megillat Esther, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira Ushmo Mordechai. Un homme juif était à Suse, la capitale. Son nom, c'est Mardoché. Là-dessus, le Midrash dit, son nom, c'est Mordechai. Ça, c'est l'expression de quelqu'un de vertueux. Pourquoi tu dis que non, c'est
non,
Dieu?
Je sais pas, je croyais que son nom, ça veut dire... C'est un des noms de Dieu, non?
Hachem? On dit en français, enfin en français on dit Hachem. Dans la vie courante... Non, c'est bien ce que tu dis. Dans la vie courante, on dit, quand on parle de Dieu, le nom... on dit le nom par égard, pour justement par dire son nom. Justement, par, pour ne pas faire comme Victor Hugo, qui, dans la légende des siècles, donne son nom. Et peut-être ça a à voir. Essayons de creuser. Peut-être ce que tu dis, c'est bien, mais essayons de creuser.
Mais la règle, elle est valide pour que ce soit un juif ou un goy.
Comment ?
La règle que vous dites.
Oui.
Elle est valide pour un juif
c'est,
ou un goy.
C'est international. Enfin, non, je parle dans le langage des versets. Dans le langage des versets, il y a une exception, mais ça, il faut bien connaître le Roumash. S'il y en a qui connaissent bien le Roumash, on verra une occurrence qui posera problème. Mais bon. Mais pas compliqué. Alors pourquoi ? Pourquoi quand il dit son nom, c'est un tel, il a encore rien fait, il a le ticket. Mais quand c'est un tel son nom, c'est mal barré. Voilà. Un tel son nom, comme Goliath son nom, ça c'est pas... C'est mal, c'est, déjà ça commence mal. Son entrée... Il a loupé son entrée. Pourquoi c'est comme ça? Le spectacle est dans la salle. Là, c'est... Enfin, un spectacle. Au cinéma, ils font 3D. Ici, c'est 4D. Ça veut dire, c'est en relief et participatif. C'est...
L'histoire du Catchman, il faut faire un film.
Comment ?
L'histoire du Catchman, pour faire...
Du quoi ? L'histoire du Catchman, tu l'as aimé ? Ah, mais vous savez qu'il a été un grand homme politique aussi, hein, Raphaël Halperin. Hein, vous avez un peu suivi
Raphaël Halperin.
Raphaël Halperin, tu regardes sur, sur Google, mais Raphaël Halperin, c'est un grand show, un grand show, ce type Raphaël Halperin. Personnage hors norme.
Là, par contre, je ne sais pas quoi en faire, mais l'idée que nommer, ça enferme quelqu'un. Quand on désigne quelqu'un, d'ailleurs, on ne peut pas nommer son père, sa mère, ça fige un peu.
Alors ?
Je ne sais pas quoi.
Merci de votre participation. Merci.
Oui, ce qui veut dire, c'est que quand on commence par le nom, oui, c'est ah. Ça enfin, je vois ce que tu dis là. Ouais.
D'accord.
T'appelles, c'est son nom.
La première...
Là, ça, c'est les textes d'après.
Je pourrais avoir le texte.
Comment ?
Je pourrais avoir le texte de maintenant.
Texte de maintenant, je sais pas. Regarde, suis avec eux peut-être. Là. Voilà, là, tu m'as trouvé.
Non,
j'en ai.
Non, mais vous
n'en
mettez pas.
Ça me fait un peu penser. par exemple, c'est comme si on dit son nom est, c'est comme si on présentait doucement la personne, on introduit. Et quand on dit tout de suite le nom, c'est un peu comme un coup de théâtre. Quand le méchant, il arrive. Il se présente tout seul. Quoi. Il n'a pas besoin d'être entre lui. Il se présente tout seul. Il s'impose.
Ouais. Oui, c'est-à-dire, c'est... Justement, regardez, c'est très important. Parce qu'un homme politique... Voilà, on est dans les pré-élections. Oui. En vérité, cette étude est vraiment une préparation présidentielle. Vous avez compris. C'est justement un homme politique, il va, ouais, il y a, je sais pas, là, un meeting de Marine Le Pen. Marine, hein, Mathias, quand on va au meeting de Marine Le Pen, c'est toujours comme ça. Hein. Marine, ça veut dire, il y a son nom, Martel, son nom. C'est le et tout, c'est comme ça. C'est Sarkozy, ou alors Hollande. Ça veut dire, c'est le nom, c'est la marque. C'est le nom, c'est le c'est comme c'est une étiquette. C'est un peu ce que vous avez dit, Sophie. Un nom, c'est on lit, voilà, c'est ça. Ce qu'on dit, voilà, maintenant, ils ont le comment dire, le le staff là du Parti Socialiste, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va truquer, machin, ils ont dit voilà, maintenant, tac, il va cristalliser un truc, par son nom il va cristalliser quelque chose. Justement, dire son nom, c'est un tel, donc, lui il se présente pas, ce que vous dites, il se présente, petit à petit, c'est son nom, c'est secondaire, quoi, c'est son nom, c'est...
une question d'humilité.
Voilà, c'est une dimension d'humilité. Et d'ailleurs, c'est ce que le Midrash dit, parce que les justes ressemblent à leur créateur et suivent la démarche de leur créateur. Comme dit le verset dans la parasha de Va'era, c'est écrit « Ushemi Hashem lo odati lahem » « Mon nom éternel, je ne l'aurais pas fait connaître. » Dieu, quand il parle de lui, il dit « Mon nom Hashem ». Savoir avec ce que tu dis, que le nom de Dieu, il ne s'impose pas. Ce n'est pas écrit, Dieu il aurait pu créer un monde où c'est gravé dans les montagnes, je suis, j'existe, je suis le plus grand, le plus fort, je suis le créateur. C'est-à-dire, Dieu, si tu veux le voir, tu le vois, si tu ne le vois pas, tu ne le vois pas. Il ne s'impose pas. Si tu veux le percevoir, tu le perçois. Si tu veux ne pas le percevoir, tu peux pas le percevoir. Tu peux ne pas le percevoir. C'est open. Il impose sans s'imposer.
Excusez-moi de vous interrompre. Quelque part, voir Hachem, c'est peut-être plutôt le matérialiser. Donc c'est peut-être pas ce que nous juifs on doit faire. On peut pas matérialiser Hachem.
C'est vrai.
On peut ressentir. On peut ressentir Hachem, comme vous avez dit, percevoir. Mais voir Hachem, c'est un grand... Et voir Hachem matérialiser le Saint des Saints, je veux dire, c'est un petit peu le limiter.
Absolument, ouais, c'est le sujet. Justement, la personne qui est humble se nomme une dimension illimitée, comme l'éternel. Donc, regardez ici ce verset est bouleversant, puisque le peuple cherche un roi, donc un roi, c'est un gouvernant. Et les premiers mots qui vont nous le présenter, d'abord c'est pas lui, c'est son papa. Et c'est bizarre. Premier nom, c'est son papa. Et deuxième verset, son nom, c'est Shaoul. C'est pas le mec, voilà, just call me, just call me Shaoul. Non, c'est pas ça. Shaoul, c'est son nom. Et on va voir, cette dimension d'humilité est absolument fondamentale chez Shaoul. C'est quelqu'un de très très humble. En réalité, Dieu va vraiment embêter le peuple juif avec ça. Ils ont demandé un roi, ils ont demandé quelqu'un qui va galvaniser le peuple pour aller à la guerre. Et il va leur servir quelqu'un d'humble. C'est quand même...
Pourquoi Shaoul il est représentatif de...
Tu vas voir, c'est tout de suite, c'est le sujet, c'est ce qu'on va voir, petit à petit, au fil des versets. Alors, je traduis le verset.
Pourquoi c'est séparé de Benyamin ?
Oui. Le Radak, Rabbi David Kimri, dit il n'y a rien de significatif. Parfois, Binyamin, c'est en un mot, parfois en deux mots. Voilà. Alors, je traduis le verset bête. Velo Ayaben, donc, ce monsieur Kish, avait un fils, ou Shemo Shaoul. Son nom, c'est Shaoul. Donc, c'est quelqu'un qui ne se met pas en avant. Voilà, il ne se met pas en avant. Ce n'est pas Goliath. C'est-à-dire, Goliath, c'est. Ce qu'il veut, Goliath, être sur les couvertures, en prime time, qu'on parle de lui, voilà, qui est son nom, Goliath. Ouais, il y a Goliath, ouais, vive Goliath. Machin. Non, c'est pas voilà, son nom, c'est Shaoul. Bahour Vatov. Bahour, ça veut dire quoi? Comment? Oui, mais la traduction précise du mot Bahour.
Une prémisse.
Non, ça fait qu'avec Kaf.
Ah oui, c'est pas bien.
Nous.
Inverse.
Alors, non, c'est vrai qu'en en hébreu courant, Bachour, ça veut dire un jeune homme. Ça sera marrant. Le retour du burlesque. Mais bon, analysons. La racine du mot. Comment? Bahar, ça veut dire
choisir.
Ah, c'est comme il a dit. C'est avec bet, kaf, resh. Et là, c'est bet, chet, resh. Alors, bahour, ça veut dire boher, c'est choisir. Bahour, alors, Radak traduit, non pas Radak, excusez-moi, Metsudat Sion, vous avez, dans l'édition que vous avez Metsudat David, Metsudat Sion. Non, Metsula David. Bachur Vatov, Metsula David. Nivra Bemaasav, Veyafe Mare. Tov, ça veut dire bon. Mais il traduit par beau. Vous vous souvenez, avec les personnes qui étaient là dans l'étude, on avait fait qui Tovot Ena, elles étaient bonnes, les filles de l'époque du déluge. Là-bas, ça voulait dire belle.
Ça peut vouloir dire entier aussi.
Comment?
Ça peut vouloir dire. C'est un peu un synonyme de chalet entier.
Oui.
Entier.
Mais regardez, c'est intéressant. Regardez Metsudat David. Je reprends. Bachur Vatov. Donc on qualifie Saül. Il est Bachur choisi. Vatov est bon. Tov, c'est bon. Il traduit Nivrar Bemaasav, c'est-à-dire il est exceptionnel dans ses actes. Ses actes sont de choix, comment dire, premier choix, deuxième choix. Hein. C'est quelqu'un de choix. Voilà. C'est noble. Quelqu'un de noble. Quelqu'un de noble. Quelqu'un de premier choix. Voilà. Comme on pourrait dire premier choix. Tov, il traduit Tov par il a fait marrer. Il a fait marrer, c'est pas qu'il est rigolo. Hein.
Belle apparence.
À la vue. Ouais, belle apparence. Mais regardez, c'est intéressant parce qu'on voit souvent, et on va voir ça dans la suite, c'est un grand sujet de philo que nous fîmes en classe de terminale, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la classe de terminale. Que grosse question, est-ce que le beau est lié au bien? C'est une grande question, n'est-ce pas? On dirait un sujet de philo au bac. Ouais. Y a-t-il une dimension éthique à la beauté? Alors, a priori, l'imbécile qui est en nous dira non. Hein? Non, la beauté et l'éthique n'ont rien à voir. Le beau et le bien n'a rien à voir. Ah. Ah, ça c'est quelque chose. Je reprends. Est-ce que le beau et le bien ont à voir? Je reprends parce que ça me fait plaisir des sujets comme ça. Je suis content. Est-ce que le beau et le bien ont à voir? Des gens qui sont moches et qui sont bien, dire, des gens qui sont beaux qui sont nuls, t'as des salauds qui sont beaux et t'as des gens vertueux qui sont moches, dire, apparemment ça n'a rien à voir. Comment?
Hein?
Comment?
En plus la beauté est subjective.
C'est ce qu'on espère.
C'est ce qu'on dit qu'on est pas
bon. On espère que ça soit relatif. Mais, alors, je reprends parce que c'est important. C'est vraiment fondamental. Hein. Je reprends. Alors, je traduis tout, j'ai pas traduit tout le verset. Donc, son nom, c'est Shaoul. Barour Vatov. Choisi, c'est-à-dire, comme on dirait, de choix. Exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, exceptionnel. Vatov est bon. Tov, bon. Ve'en ish mi bnei Israël tov mi menou. Il n'y a personne parmi les enfants d'Israël meilleur que lui. Mishirmo vamala, de stature et de hauteur, au-dessus de tout le peuple. C'est-à-dire, il est et en noblesse d'allure et en qualité morale, le meilleur du peuple juif. Donc, Dieu choisit, c'est... Comment on peut dire comme le meilleur?
Une bombe atomique.
C'est... Oui, mais c'est justement le... Ça veut dire, imaginez, nous on est, il y a le peuple juif. Il y en a qui disent, ils veulent le Mashiach maintenant. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Voilà. Dieu, voilà, finalement, il va choisir le Mashiach. Le meilleur du peuple juif. Ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce qu'il fait pour être le meilleur? C'est quoi meilleur par rapport à quoi? Meilleur? C'est meilleur, c'est quoi?
Il y a pas de... enfin, tout est relatif, après, c'est... ça dépend de la perception de la personne.
Mais là, c'est Dieu qui choisit. Dieu. Là. C'est important de savoir quels sont les critères de Dieu. Le meilleur, c'est quoi? Il joue le mieux de la guitare du peuple juif. C'est quoi le meilleur? C'est le meilleur en quoi?
On a dit les actes et la beauté.
Comment?
On a dit les actes et la beauté, les midot.
Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Il est exceptionnel et il est tov. En tov mimeno. Tov, et ça inclut, je reprends le commentaire très concis de Metsudat David. Metsudat David, c'est un commentaire important, surtout sur tous les prophètes. C'est Rabbi David Altshuler, qui était, je pense, il y a au XVIIe siècle. Rabbi David Altshuler. Il dit, Bachur Vatov, Nivra Bemasav, exceptionnel dans ses actes, Veyafé Maré, et très beau. Il y a les deux.
Donc en fait, le truc, c'est que dans le texte, il dit bon, et tous les traducteurs disent que c'est beau, c'est ça
Alors, le verset... Bachur Vatov.
Donc ça c'est normalement c'est bon.
C'est Bachur, ça c'est dans ses actes.
Ouais.
Tov. Tov. Parce que ça va être répété. Il n'y a personne de meilleur que lui. Le verset dit Mishirmo d'allure, Vamala et de qualité. Il y a les deux. C'est pas seulement. Vous savez, par exemple, on cherche un shidour pour quelqu'un. Ce que c'est un chidour, c'est-à-dire pour faire rencontrer un jeune homme avec une jeune fille. Et on dit, cette personne a des très bonnes midot. Elle dit non, non, non. Midot, des grandes qualités. Non, non, non. C'est déjà mal parti. C'est déjà mal parti. C'est des bonnes midot. Non, on connaît. Non, je blague. Hein. J'arrive pas à être sérieux plus que 5 minutes. Mais par contre, c'est pas parce que je blague, je suis pas sérieux. C'est ça la difficulté.
Excusez-moi, par rapport à cette beauté dont on parle, est-ce que c'est pas. Je sais pas, quand on a la chance de rencontrer des gens, des tzadikim ou des gens vraiment particuliers, il se dégage quelque chose d'eux qui les rend magnifiques. Je pense à certaines personnes. Voilà, c'est pas les nommer, mais Noël Rabagnotte, moi que j'ai rencontré, c'est pas belle. Il y a quelque chose qui se dégage d'elles,
mais
elles sont magnifiques.
Alors, on va voir dans la suite. On va voir dans la suite.
Un aspect angélique.
Comment? On va voir, on va voir. Mais regardez, ça c'est un point important. Moi, j'aime pas censurer les choses. J'aime pas. on voit malgré tout dans la Torah que Sarah, on voit dans la Torah, Sarah, elle arrive en Égypte, c'est la révolution. Ouais. Et ça lui arrive, ensuite elle va chez le pays des Philistins, c'est encore la révolution. Et le Talmud dit que Sarah était exceptionnellement belle. Qu'ils ne le disent pas, on s'en fout, je veux dire, belle, on s'en fout, qu'elle soit belle, pas belle, on s'en fout, je veux dire, c'est pas important, bon. Elle a surmonté.
Les êtres humains ont besoin d'être aussi subjugués par une personnalité, par une aura, par quelque chose. Donc la beauté, c'est comme un attribut qu'on leur a mis à la personne pour avoir une assise de guide. Mais par contre, ses actes seront exceptionnels parce que justement, alors qu'elle pourrait avoir tous les,
oui, c'est ça.
Toutes les bénéfices. Et la nature humaine ayant ses faiblesses, ben,
elle va utiliser cette capacité pour faire quelque chose de bien. Mais ce que vous ajoutez, c'est que cette personne n'est pas seulement un rayonnement intérieur, mais subjugue par sa beauté. Il y a une nécessité à ça. Ça signifie quelque chose aussi. Que cette personne ne l'utilise pas à mauvais escient, c'est une qualité. Qu'elle en fasse quelque chose. Mais que ça représente quelque chose, que ça signifie quelque chose, c'est des choses de la vie, c'est des choses du monde. C'est pas non plus à dire, si vous voulez, oui, c'est rien, c'est pas important. Des fois, oui. Des fois, c'est important. C'est pas...
Excusez-moi. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle quelque chose de, en fin de compte, l'histoire avec Rachel et nous. Il y avait, en fin de compte, on parle beaucoup de Rachel et nous, qu'elle s'est beaucoup sacrifiée pour Léa. Rachel, en fin de compte, elle a eu tendance à beaucoup s'effacer. Elle était très bâtelle envers Rachel et elle n'avait pas du tout de gava. Elle a tout fait par amour pour sa famille. Et là où je veux rejoindre ça, c'est pourquoi on n'a pas mis en avant la beauté de Rachel dans la Torah.
Si,
la...
ah oui, si, si. Si, le verset au contraire.
On met la beauté de Rachel en avant, mais celle de Sarah, c'est très charismatique. Sarah est très charismatique.
Rachel aussi, hein, Rachel aussi.
Oui, mais c'est pas la première chose, moi.
Tu regardes le verset dans Rachel, c'est la première chose qui est dite à propos de Rachel.
Ouais.
Les factoires, vous y avez fait marrer, je te peux exactement. Ouais. Et d'ailleurs, justement, c'est important ce que tu dis, parce que Shaoul descend de Rachel. Shaoul descend de Rachel. Donc il y a cette dimension de. On va voir dans la suite. Si vous voulez, on va continuer le texte, mais je tiens à mettre en relief ce point qu'il y a une union entre ici les qualités morales, qualités intérieures, qualités d'élévation intérieure, comme on va le voir dans la suite, et d'une présence physique et d'un rayonnement physique. Pas seulement un rayonnement, une aura spirituelle, qui sûrement il a, mais... d'une beauté, d'une beauté.
Pourtant, c'était à travers ses actes, beaucoup qu'on parlait de ça.
Oui, mais
c'est ses
actes. Cher ami, on aime, on se complaît à travestir les choses de la Torah sur ce qui nous fait plaisir. Mais c'est vrai, c'est plus plaisant de dire que c'est les qualités spirituelles qui sont principales. Ça l'est sûrement, mais il n'y a pas que ça. Là, il faut nommer un roi, c'est important ce que vous dites, il faut nommer un roi, et...
Il faut qu'il plaise.
Je ne sais pas s'il faut qu'il plaise, je ne sais pas si c'est plaisant, mais il est beau. On n'a jamais dit qu'Abraham était beau.
Pourtant, il fait du super
boulot. Il est beau. Comment ?
Yosef s'est dit qu'il est très beau, mais est-ce qu'on dit la même chose de Yitzhak ? Est-ce qu'on dit la même chose de Yaakov ?
Oui, mais absolument. Tu as tout à fait raison. On ne dit pas que... On tuera tous les affreux, je veux dire, voilà, t'es affreux, flac. On dit pas qu'il y a place, c'est la tyrannie, on dit pas que c'est la tyrannie de la beauté, et qu'on va sortir d'ici, on va tous aller se faire de la chirurgie esthétique. C'était pas ça, mais en tout cas, au sujet de Shaul, au sujet de Rachel, au sujet de Sarah, voilà, il y a une dimension qui est insistée ici. Et on va le voir plus dans la suite des versets. Les versets dans la suite vont insister là-dessus. On va voir ça.
J'ai remarqué qu'on insiste surtout sur les femmes.
Comment ?
J'ai l'impression qu'on insiste surtout sur les femmes. Quoi, que les femmes mariées, les femmes etc. Mais pour les hommes, entre guillemets, c'est un peu délaissé. Quoi.
Ben voilà, c'est... C'est un scoop. Alors, on continue. Verset Guimel. Ah, vous avez pas. Eh ben, je vous passe. On fait... Alors, regardez. Le cours, normalement, c'est jusqu'à 21h30. Mais comme on a commencé avec quand même 10 minutes de retard, on se rajoute encore une. Hein, 10 minutes. Et toc. Alors, oh là là, j'avais plus de textes. Je m'étais pas rendu compte. Regardez, ça, c'est les textes d'avant, hein. Les textes d'avant. Et maintenant, c'est les nouveaux textes. Voilà. Et ça, c'est les textes d'après. Verset Guimel.
C'est
un texte là pour le... Vous allez avoir, vous allez avoir.
Encore.
Ouais, on arrive.
Ça arrive, ça arrive. Ça va passer.
Bien, on y va. On y va. C'est bon, messieurs, dames ? Vous avez le matériel ? Jessie, vous avez ? C'est bon ? On y va. Vatovadna. C'est bon ? Vatovadna a atonot les kish avi Shaul. Vayomer kish el Shaul beno. Karna itra et achad me anearim, vekum ler bakesh et a atonot. Atonot, Aton, en hébreu.
Anès.
Anès, super. Les Anès ont été perdus des Anès de Kish, le père de Shaoul. Et Kish dit à Shaoul, son fils, prends, s'il te plaît, avec toi un des pages. Des pages, un page.
D'accord.
Un page, vous savez, un page, c'est un jeune homme de la cour. C'est bon ? Vous voyez le mot page, un page ? Oui ? Non, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, le français... Il faut, je vais imposer les lectures des classiques avant de venir au cours. Hein. Donc, Kish dit à Shaoul, son fils, prends s'il te plaît avec toi un des pages. Vekumler, lève-toi, va rechercher mes ânes. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Moi, je cherche un cinéaste pour faire tout ce qu'on va faire en film. Parce que, vous avez, là, ça a commencé.
Ils vont voir le prophète. Il y a tous les anciens d'Israël vont voir le prophète. Donc, ils vont voir le prophète. Il y a Dieu qui parle au prophète. Il dit, d'accord, je vous ai compris. Ouais. Il y aura un roi pour le peuple juif. Voilà. Scène d'après. Bucolique. On est à la campagne. On est à la campagne. Et il y a un brave gars à la ferme et à son père, il a perdu les ânes. Dis-moi, fiston, où sont passés les ânes? Alors, papa, je ne sais pas du tout. Bon, alors, s'il te plaît, prends un des pages, les hommes de la ferme, et va chercher mes ânes. Et ça commence comme ça, c'est extraordinaire. C'est extra, je ne sais pas, c'est... Il y a un changement de décor complet. On est tout d'un coup, on est à la campagne, il y a... On dit « I-O, I-O, c'est excellent, c'est vraiment, c'est top, c'est excellent. Il faut savoir pour le casting qu'on va prendre pour Shaoul. Alors, va s'il te plaît chercher mes ânes. Verset d'Alet. Va yavor be'ar Ephraim, va yavor be'ret shalisha, velo matzaou. Vayavrou beret shalim va ain. Vayavor beret semeni velo matsaou. Il traverse toute la montagne d'Ephraïm. Il traverse la terre de Shalisha. Il ne les trouve pas. Il traverse la terre de Shalim. Rien du tout. Aïn. Rien du tout. Il traverse la terre de Binyamin. Il ne trouve pas les ânes. Vous n'avez pas vu des ânes, là, s'il vous plaît? Vous avez vu passer des ânes? Vous avez pas vu les ânes? Et continue, un village après. S'il vous plaît, vous avez pas vu là dans la campagne des ânes passer? Et continue, il ne trouve pas les ânes. Verset E. Ema baou beret souf, ve shaoul amar le naharo asher imo, le ra venashuva, penerdal avi menatonot ve daglanu. Ils arrivent dans la terre de Tsouf. On va voir qu'est-ce que c'est cette terre de Tsouf. Shaoul dit à son page qui est avec lui, s'il te plaît, retournons. Parce que, papa, je pense que c'est secondaire pour lui, les ânes. Il va se faire trop de soucis. Du souci pour nous et les ânes. Je pense que ça vaut le coup de retourner à la maison. Alors, qu'est-ce que c'est la terre de Tsouf? Regardons le commentaire de Rashi qui rapporte la traduction de Yonatan Ben Uziel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que chaque verset est traduit en araméen et expliqué par Yonatan Ben Uziel. Et voilà, ils sont dans la terre de Tsouf. Rashi, Tsouf, Be'ara de Benevaya, Tsouf kemot sofe. La terre de Tsouf, ils arrivent dans la terre de Tsouf. Tsouf veut dire tsofé en hébreu. Vous savez qu'est-ce que c'est tsofé?
Un quelqu'un qui voit.
Oui, très bien. Donc, où est-ce qu'on voit ça, par exemple?
Aratsofim.
Aratsofim, très bien. Très bien. Comment ?
Contempler.
Contempler. Ok. Par exemple, comment on dit les éclaireurs en hébrite, en hébreu moderne ? Les tsofim. Mais c'est bien. Arat sofim, c'est plus. C'est bien. La montagne qui voit. Ils sont dans le pays où il y a une vision. Rachid dit, dans une région où il y a des prophètes. Ils arrivent dans une région où il y a des prophètes. Donc il y avait des centres, si vous voulez, de la même manière qu'il y a des villes où il y a des yeshivotes aujourd'hui, et des villes, il n'y a pas. À l'époque, il y avait des villes où il y avait des prophètes, et des endroits où il n'y avait pas. Donc ils arrivent à un endroit où il y a des prophètes. Mais Shaul il dit, dis-moi, là ça fait plusieurs jours qu'on court, là, on n'arrive pas à trouver, mais je pense que papa va se faire trop de soucis. Et je vais vous dire quelque chose, je pense que ça va être incroyable pour vous. Il n'y avait pas de réseau SFR. Donc ils ne pouvaient pas. Ils pouvaient parler avec Dieu relativement facilement, mais ils n'avaient pas de portable. Il n'y avait pas de cabine non plus. Et papa va se faire du souci. Il faut qu'on rentre à la maison. Verset suivant. Vayomerlo, inena ish Elohim ba'ir azot. Vaish nirbad, kolashan yedaber bo yavo. Atan el racham ulad yagid lanu et darkenu asher alarnu alea. Le page lui dit, regarde s'il te plaît, il y a l'homme de Dieu dans cette ville. Regarde, il se trouve juste là maintenant, on est dans une ville. Quand on parle ville, je pense que c'est des villages. Hein. Pas des villes comme aujourd'hui. C'était des villages. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Cet homme est très important. Tout ce qu'il dit arrive. Allons, s'il te plaît, le voir. Peut-être il va nous expliquer tout le chemin qu'on a fait. Tout le chemin qu'on a fait. C'est-à-dire, dis-moi, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est tout ce chemin qu'on a fait ? Pourquoi on est parti là avec les ânes là ? On est parti là. Regardez, c'est important aussi. C'est pas Shaoul qui dit ça, c'est son page. Le page, jusqu'à la fin des temps, on ne saura pas son nom. C'est le page qui lui dit, c'est bizarre quand même. On aurait pu imaginer, regardez, ça fait une demi-heure, on est en train de se bagarrer, c'est les qualités, grandes qualités de Shaoul. Le verset aurait pu commencer à nous montrer quelqu'un vraiment de superstar, l'homme de la situation. Ouais, ça fait des jours qu'on parle, ah, il y a un prophète en ville, on va le voir. Non, il lui dit, oh, papa, il se fait du souci. Regardez, les ânes, c'est secondaire, on rentre. L'autre, et le page, il dit, regarde, on est dans un endroit, il y a un homme de Dieu. Peut-être, on va le voir, il va nous expliquer pourquoi on a fait tout ce. C'est pas normal. Tout ce voyage-là, pour des ânes, c'est louche. Pourquoi ? Pourquoi ?
C'est bizarre, c'est qu'on a l'impression que le page, il est plus futé que Shaoul.
C'est ça, les gens bien. Si vous êtes intelligent, c'est un malus. Non, ça veut dire... Non, on sent qu'il est bien. Il est bien dans ses baskets. Il n'est pas torturé, quoi. Il est bien. Il est tov. Il n'est pas tov, mais autre. Tov. Il est magnifique. C'est pas le... Et justement, les commentateurs vont dire, on voit justement, comme qui dirait, ses bonnes qualités, ses qualités spontanées. Il se fait du souci pour son papa. Et l'autre, au contraire, on ne saura jamais qui c'est. Il lui dit, mais attends, il y a l'homme de Dieu. Bon, Dieu, c'est secondaire pour Shaoul. Hein. Vous pourrez remarquer. C'est pas ça qui. Nous, si on avait écrit un mythe. D'ailleurs, tout de suite, on a le premier, celui qui va être le premier roi du peuple juif. Il est brillant. Lui, il est bien. Pas brillant. Il est bien. Ça, c'est extraordinaire, ça. Je ne sais pas expliquer, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Ok. Alors, regardez. On va s'arrêter là pour le moment. Parce qu'après, il va y avoir de l'action.
Il va y avoir de l'action. Et on ne pourra pas s'arrêter au milieu. Et après, à minuit, vous allez me dire, oh, vous avez exagéré. On s'arrête là. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Hein, dans 2 semaines. On continue dans 2 semaines.
Okay. Et mardi prochain ?
Mardi prochain non plus. Voilà, 1 semaine. Je vous laisse tranquille. Par contre, Shabbat, pas celui-là, celui d'après, on anime un Shabbat plein ici, si ça vous branche. Ici à Flegue. Ici à Flegue, on fait un Shabbat plein, dont le thème, c'est préparation à Pourim. Voilà. Ok. Alors, Shabbat Shalom, à bientôt.